Merci pour cette première partie du culte, pour les musiciens aussi. Merci pour ceux qui apportent aussi des fleurs. Ça fait partie de ce détail dont on ne parle pas souvent, mais qui pourtant prépare et dispose, prédispose en tout cas, à passer un beau moment aussi en communion avec notre Seigneur. J'ai toujours du plaisir à vous revoir. Alors je vois des visages nouveaux, je vois des visage connu. En tout cas, ça montre que l'Église vit, hein, et elle se renouvelle aussi. Alors, je voudrais saluer tout particulièrement Eric. Je voulais vous saluer personnellement, puis je n'ai pas eu le temps en début de culte. J'étais un peu pris. En tout cas, que nous passions ce temps à l'écoute aussi de la parole de Dieu ensemble et dans la reconnaissance. Je voudrais faire trois lectures, après quoi nous chanterons un cantique. Puis nous méditerons sur le thème de ces lectures. La première lecture, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Alors, je pense que c'est la même traduction dont vous suivez. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc là, c'était après la résurrection. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Une deuxième lecture dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Et puis une troisième lecture, enfin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Ah voilà, oui, on y est. J'attaque directement au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Avant que nous méditions, donc, je vous invite à chanter les deux strophes du cantique indiqué. « Nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique. Les béatitudes de Matthieu 5 sont souvent commentées. Et on sait que sont heureux ceux qui procurent la paix, qui ont le cœur pur, ceux qui ont faim et soif de justice, etc. Mais rarement, nous faisons attention aux récompenses, aux gratifications promise correspondant à chaque cas. Alors on sait que certains hériteront la terre, que d'autres seront appelés fils de Dieu, à d'autres le royaume des cieux sera à eux. Or, bien peu sont ceux qui seraient capables de savoir quelle récompense s'accorde avec quelle béatitude. Et en particulier, on peut se demander de qui il est dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. S'agit-il de ceux qui ont le cœur pur, de ceux qui sont pleins d'amour, les miséricordieux, ceux qui font la paix, les doux et les humbles? Assurément, on pourrait affirmer sans se tromper et l'accorder à chacun de ses qualités. Mais être appelé fils de Dieu, c'est quelque chose. C'est même une très grande chose. C'est même le titre du Christ Jésus. Le fils de Dieu, c'est celui qui est vraiment son représentant sur la terre, son disciple, son serviteur, celui dont on peut dire que sa vie est issue de Dieu, tout comme chacune et chacun ici est issu de son Père. La vie du Fils de Dieu vient tout entière de Dieu le Père. D'après les béatitudes, seront appelés fils de Dieu, ceux qui procurent la paix. C'est assez surprenant, étonnant. Aujourd'hui, Nous aurions plutôt dit que cela devrait être promis à ceux qui sont pleins d'amour, c'est-à-dire les miséricordieux. Et nous prêchons, en effet, sans cesse, et à raison, que Dieu est amour, que l'essentiel, c'est l'amour, qu'être digne de Dieu, c'est aimer et faire grâce, que la plus grande chose à donner, c'est l'amour. Bref, nos messages chrétiens de nos jours sont tous empreints et centrés sur l'amour et la grâce. Et nous répétons que le seul commandement, le plus grand commandement, la seule exigence, c'est aimer Dieu et son prochain. Comment se fait-il alors que les béatitudes, au lieu de centrer le message sur l'amour et la grâce, ou la miséricorde, le font sur le fait de donner la paix? Peut-être y a-t-il là quelque chose à entendre de la part du Christ, justement parce que c'est surprenant. Il faut bien dire tout d'abord que le message d'amour que les prédicateurs et moi-même veulent faire passer est le plus souvent problématique. Tout d'abord, il est brouillé, ce message. Le mot « amour » peut en effet signifier bien des choses. Le grec est plus subtil que le français, lui, et il a plusieurs mots pour cela. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit le mot « amour » ? De l'éros, de l'agapé, de la philia ? Et cela fait sans cesse des contresens. En tout cas, on reste dans le flou. Ainsi, certains ne comprennent pas que le Christ demande d'aimer ses ennemis, parce que comment peut-on trouver sympathique quelqu'un que l'on n'aime pas ? Et puis, les jeunes époux, souvent, veulent régulièrement lire le 1 Corinthiens 13 sur l'amour éternel, en pensant que cela parle du sentiment amoureux très fort qui les unit. Mais le sentiment amoureux est tout sauf éternel. Il est passager. Certes, il est obligatoire, il est passage obligé. Il permet la rencontre, il permet de se trouver, de s'aimer pour se construire. Mais il demande cet amour à se prolonger et à s'approfondir dans un autre type de démarche. Et l'amour éternel dont il est question chez l'apôtre Paul dans Corinthiens, ce n'est pas l'amour des amoureux. C'est l'amour que chacun doit avoir pour le monde. Et puis le message est brouillé parce que nous ne savons pas très bien qui nous devons aimer comme nous-mêmes. L'Évangile nous dit que c'est son prochain. Mais qui a une idée claire de ce que cela peut représenter ? Aujourd'hui, on le comprend le plus souvent comme désignant notre semblable, c'est-à-dire tout autre être humain. Et on pense confusément que cet amour du prochain nous invite à être solidaires avec les pauvres du tiers-monde. Mais il est plus facile d'envoyer un chèque à une ONG que vraiment d'aimer son beau-frère, son voisin de palier, voire même son conjoint. Je ne dis rien sur les belles-mères. Mais plus sérieusement, à force de dire qu'il faut aimer tout le monde, ce commandement d'amour qui est essentiel devient impossible, inopérant et fade. On accommode ce terme d'amour un peu à toutes les sauces, parce qu'on ne sait plus très bien ce que veut dire aimer. On sait encore moins qui nous devons aimer, mais on ressasse sans cesse tout de même cette exigence évangélique. Peut-être avec d'autant plus de facilité que cela ne nous engage pas à grand-chose de précis. Et faute de savoir ce que cela veut dire ou ce que cela implique pour nous. Par ailleurs, l'amour, qui est une très belle chose, certes, n'est pas dénué de risques. Il ne fait pas forcément que du bien. On pense parfois qu'il suffit d'aimer et qu'alors on est forcément dans le bien. Selon cette belle parole de saint Augustin, « Aime et fais ce qui te plaît ». Et beaucoup croient dans ce bel adage en pensant que si l'on aime, alors on ne peut faire que du bien à l'autre. Mais en fait, rien n'est moins certain. L'amour peut être très bon, mais il peut aussi être mauvais. Il y a de mauvaises façons d'aimer. On peut aimer, vouloir le bien de l'autre et pourtant se tromper et faire du mal. Oui, il peut y avoir des amours mauvaises, néfastes, perverses même, parce qu'il y a des amours qui enferment, qui étouffent et même parfois qui tuent. Celui qui a dit « Délivre-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge » a bien senti cette difficulté. Le mal fait par les ennemis a quelque chose d'objectif, contre lequel il est possible de se défendre. Mais le mal que nous font ceux qui nous aiment, en pensant parfois nous faire du bien, il est extrêmement néfaste. L'amour tisse parfois des liens pervers dont il est très difficile de se dégager. Des amours qui génèrent des sentiments de culpabilité épouvantables chez ceux qui essaient de s'en sortir. Et cette perversion de l'amour n'est pas réservé simplement aux relations humaines, car même dans le domaine spirituel, une certaine idée de l'amour de Dieu peut devenir pesante et destructrice. Et il suffit de voir les ravages qu'une prédication de la grâce a pu faire dans le monde puritain. Peut-on en effet supporter d'être aimer quand on se sait peu aimable? Et que faire d'un amour qui maintient prisonnier, d'un amour qui infantilise au lieu de permettre de devenir soi-même libre et en marche? Le fait d'être aimé risque toujours de nous imposer quelque chose et peut nous rendre redevables, voire même enlever notre liberté. Certains parents le savent bien. Ils disent, quand ils disent à leurs enfants, « Si tu m'aimes, tu ne devrais pas faire ça. Si tu m'aimes, ne pars pas. » Et puis quand ces enfants sont devenus plus grands et adultes, « Si tu m'aimais, tu viendrais plus souvent me voir. » L'amour risque toujours de ne plus être vraiment gratuit. On pense parfois que l'amour de Dieu attend et demande une réponse, un remboursement. on dirait aujourd'hui, un retour sur investissement. Des devoirs à la hauteur de ce que nous avons reçu. Et alors nous retombons dans cette théologie des œuvres, dans ce devoir à rendre, plus tard peut-être, mais à rendre quand même, et qui génère la culpabilité. Cette culpabilité, c'est de ne pas mériter la grâce, de ne pas savoir aimer assez comme Christ nous aime, et de devoir être continuellement redevable de quelque chose. Alors l'amour est évidemment très bien, mais jusqu'à un certain point. Et en tout cas, il n'est pas dénué de risques et de problèmes. Peut-être donc qu'en effet, une chose est plus importante encore, c'est la paix. Et peut-être que ce que Dieu donne avant tout, c'est la paix. Et celui qui, dans ce monde, est fils de Dieu, il n'est pas dit que c'est celui qui aime, mais celui qui apporte la paix. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors il y a d'abord cette paix intérieure. Ça, c'est une très belle chose. Quel beau cadeau de la part de Dieu que de pouvoir être en paix avec soi-même. Parce qu'on ne se sent plus coupable. Parce que nos désirs se trouvent être harmonisés. Parce qu'on s'assume comme on est. Parce qu'on n'a pas de désir exalté qui court toujours vers l'irréalisable et qui nous fait souffrir. Être en paix, c'est m'efforcer d'entrer dans ce repos. Le repos que m'offre Jésus-Christ. Et ce repos, je l'obtiens en lui déposant ce souci qui me taraude, cette situation inextricable qui me semble insoluble, et saisir alors cette promesse qui m'est faite, qu'il s'occupe de moi, qu'il me connaît par mon nom, qu'il me tient par sa main. Être en paix parce que l'on est confiant, en sécurité spirituellement, et que l'on se sait aimé et sauvé par Dieu. Et puis, la paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu, c'est aussi une grâce, obtenue par Jésus-Christ qui nous a réconciliés. Avez-vous vécu des réconciliations ? J'en ai vécu. Parce que je m'étais fâché avec des gens s'étaient fâchés avec moi, enfin, en tout cas, on était fâchés. Mais sérieusement, et on s'est réconciliés. Et vous savez, une réconciliation, c'est quelque chose de, quand elle est vécue réciproquement et dans la vérité, quelque chose de magnifique. Et l'Écriture nous dit que Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Et que nous obtenons désormais, dans la paix, juste une relation avec lui de proximité et de transparence avec Dieu. Être en paix en s'approchant de lui. Et enfin, il y a la paix avec l'autre, si difficile, mais dont nous avons tous besoin. Et cette paix, c'est d'accepter l'autre, de le prendre comme partenaire, un vis-à-vis, comme celui avec qui je peux parler, avec qui je peux partager un repas. L'autre qui est libre, mais qui me laisse libre. L'autre que je ne cherche pas à dominer, mais qui ne veut pas me dominer. L'autre que je ne possède pas et qui ne me possède pas. C'est ça, en fait, le véritable amour. celui qui construit, qui respecte, et pas cet amour gluant qui emprisonne. La paix, les uns avec les autres, c'est ça qui est la véritable forme d'amour. Bien loin de cet amour pathologique qui peut si vite se transformer en haine. C'est comme cela qu'est l'amour du Père dans la parabole du Fils prodigue. Il donne. Il ne retient pas. Et il accueille sans faire de reproche. Il n'exige rien. En retour, il est tout à la joie de la présence de l'autre qui est prise comme une grâce, sans rien attendre. Mais le contraire de cette joie, de cette paix, de cette réconciliation, de cette retrouvaille, eh bien, c'est la jalousie dont nous avons lu le texte tout à l'heure. La querelle du fils aîné, la revendication, c'est usant, c'est destructeur, plus peut-être que de ne pas être aimé. Les gens qui donnent la paix, les gens pacifiques, sont infiniment précieux et constructifs. La paix, c'est donc bien sans doute ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde pour vivre. Et nous, le mieux que nous puissions donner autour de nous, c'est la paix. Mais attention, la paix, ce n'est pas l'ignorance ou l'indifférence. La paix, ce n'est pas, vous savez, la politique des petits singes. Rien entendre, rien voir et surtout ne rien dire. La paix, ce n'est pas mettre les problèmes sous le tapis pour ne pas faire de vagues surtout et garder une apparence de paix. Ce n'est pas le désintérêt, c'est l'amour libérateur. Et la paix exige un engagement, une action. On raconte l'histoire de ce vieil homme, vieux peut-être parce que c'est associé à la sagesse, je ne sais pas, mais qui ne se séparait jamais de sa burette d'huile parce qu'il ne supportait pas les grincements de portails, de portillons, de portes. Ce bruit l'insupportait au maximum. Alors, chaque fois qu'il ouvrait une porte et que ça grinçait, il sortait sa burette et mettait un peu d'huile dans les gonds, dans la serrure. Et lorsqu'il partait, on n'entendait plus ce bruit de grincement. Belle image de ce que nous devrions être. Savoir mettre un peu d'huile partout où ça grince. C'est d'ailleurs ce que Jésus ressuscité donnera selon l'évangile de Jean. Après sa résurrection, alors que ses disciples sont craintifs dans cette chambre haute, il s'approche d'eux et il ne dira pas « Je vous aime, mais je vous donne la paix. » Mon expérience pastorale en tant qu'aumônier dans les hôpitaux à Bordeaux, dans l'accompagnement des mourants, m'a souvent fait poser la question avant d'entrer dans la chambre. Qu'est-ce que je vais dire ? Que dire ? Dieu vous aime ? Je vous aime ? Vous sentez-vous aimé ? Tout cela n'est pas faux. Loin d'être faux, mais ne me semble pas ni être à sa place à ce moment-là, ni être le plus important à ce moment-là. Le plus important n'est-il pas de dire « Êtes-vous en paix ?» Et la dernière parole n'est-elle pas d'être en paix ? Cette paix que seul Dieu peut donner, qui n'est pas celle que donne le monde, mais qui est celle que Dieu donne à quiconque s'approche de lui. Alors en fait, l'amour que j'ai dénoncé, ne croyez pas que je sois venu pour faire le procès de l'amour. Ce matin, ce n'est pas mon but. Mais ce que j'ai dénoncé, ce n'est pas l'amour dont parle l'Évangile. Ça, c'est l'amour humain, qui est plein de contradictions et parfois plein de calculs. Mais le véritable amour dont parle Dieu, dont parle l'Évangile, c'est une manière de respecter l'autre, une manière de l'écouter. Et hier soir, on en parlait, cette dimension de savoir écouter. Écouter l'autre, de lui permettre d'être lui-même et jamais de l'enfermer ou de le contraindre. Et c'est ainsi que l'amour évangélique de l'Évangile, en fait, contient la paix. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, les béatitudes ne parlent pas d'amour. Parlent de miséricorde, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne s'agit pas de cet amour intelligent, raisonné, peut-être parfois calculateur, mais il s'agit d'un amour qui, pour reprendre une image un peu triviale de l'Évangile, un amour des entrailles, du ventre, des tripes. Or, l'amour ne devient véritable amour que s'il concorde avec liberté et paix. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous, nous dit l'apôtre Paul, et je vous donne la paix. Voilà ce que nous offre le Dieu de Jésus-Christ. Paix intérieure, paix du cœur, repos, pouvoir se nourrir de la paix pour rayonner la paix. Nous ne pouvons partager ce que nous n'avons pas reçu, alors soyons en paix avec Dieu, paix avec soi-même, paix avec les autres et paix pour les autres. Heureux en effet, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils, et je rajoute fille, de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous qui sommes rassemblés ce matin pour t'offrir un culte, nous sommes venus avec des cœurs inquiets, des cœurs aussi heureux, des cœurs dans le chagrin, et à chacun, tu veux nous accorder ta paix. Tu ne nous épargnes pas les épreuves, mais tu nous as promis que tu étais avec nous, dans l'épreuve. Seigneur, console nos cœurs, console nos pensées, apaise aussi nos tensions, et saisissons comme tout à nouveau cette paix que tu nous offres par grâce, sans rien en retour, mais par pur amour pour nous, et que nous puissions connaître cette paix qui surpasse toute intelligence, mais qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Nous t'en prions pour chacun de nous, en particulier, et pour ton Église. Amen.